Chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, et de Radio Mono à Châlons-Champagne, nous allons aujourd'hui parler de la charte de la Havane. Vous savez, chers auditeurs, que dans le contexte politique et économique compliqué d'aujourd'hui, vient se greffer une problématique complémentaire dont on ne parle pas beaucoup, parce que on est un peu pris dans l'actualité par les événements actuels, la motion de censure qui vient d'être votée contre la loi de finances, le projet de loi de finances, et le fait qu'on va encore devoir changer de gouvernement et ainsi que voter un nouveau budget pour la France. Il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées dernièrement dans l'actualité qui sont très graves, dont on parle très peu. L'inauguration de la cathédrale Notre-Dame, qui était un événement important pour les Français et les Parisiens notamment, a aussi masqué un petit peu la couverture médiatique bien légitime, qui aurait dû être entièrement consacrée au phénomène dont je vais parler aujourd'hui, qui est un phénomène important. D'abord, première chose, on sait que la Syrie a été envahie, en Syrie, le Bachar el-Assad a dû partir, donc ça va changer quelque peu la donne géopolitique, notamment au Moyen-Orient. Et il y a un deuxième événement qui est très important, c'est celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est le fait que deux pays d'Afrique, qui traitent de manière très traditionnelle depuis les indépendances des États africains, ont demandé à rompre leurs accords militaires avec la France. Il s'agit spécifiquement du Tchad et du Sénégal, deux pays qui ont un passé d'amitié et de diplomatie très important avec la France. Le Tchad, on se souvient d'Idriss Déby qui a été assassiné et qui a été remplacé par un autre homme politique de sa famille d'ailleurs, qui avait des positions beaucoup plus marquées sur ses rapports avec la France. Et puis le Sénégal, qui est un État qui a toujours été très ami avec la France. Il y a beaucoup de Sénégalais en France. Donc ces deux pays-là rompent les relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la France, maintenant, n'a plus ses marques en Afrique. On se souvient que lorsqu'il y a eu l'intervention des troupes françaises au Mali et au Burkina Faso, à cette époque-là, la France a été le seul pays à être capable avoir le courage de prendre ses marques et à aller lutter contre le djihadisme en s'installant de manière durable avec ses troupes militaires au Mali et au Burkina Faso. Ça aurait pu être une opportunité pour la France de constituer un partenariat économique, militaire et politique très important, et la France n'a pas su le saisir, ça s'est pas très bien passé, et les troupes françaises ont fini par repartir dans leur pays. Les conséquences sur la géopolitique et sur les positions françaises dans le monde en sont très importantes, puisque on sait que lorsque les Français étaient encore au Mali et au Burkina Faso, ils ont été rapidement supplantés par les troupes de Wagner qui représentaient la Russie. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de Chinois en Afrique. Et maintenant que la France est partie, ça va être encore pire. Ce sont autant d'opportunités d'engagement de la France avec des États africains qui se ratent. Pourtant, le continent africain continue à évoluer, à vivre, à faire la production et des échanges économiques. Il noue des alliances avec d'autres États du monde. Même si la France n'en fait pas partie, il continue à exister. Alors, je vais essayer aujourd'hui, je pense que c'est un phénomène qui est relativement important, parce que je pensais que la France aurait dû normalement tirer d'un passé colonisateur, à l'issue duquel il y a eu beaucoup de cruauté, certes, avec la France-Afrique, beaucoup de déviance, politique mise en place avec un système de corruption important duquel la France, auquel la France a beaucoup participé. C'est du moins ce que nous explique l'association Survie, qui est une association qui s'occupe de mettre à jour les comportements de la France dans le cadre de la politique france-africaine qui a été mise en place par le général de Gaulle après les indépendances en 1960. Aujourd'hui, la France, il n'y a plus vraiment de France-Afrique, il va continuer à y avoir de la corruption, mais les positions françaises, du moins officielles, diplomatiques, politiques et économiques, risquent d'être de plus en plus controversées et de diminuer son l'influence française ne sera plus la même. C'est pour ça que j'essaye aujourd'hui de remonter à la genèse de cette problématique-là et d'essayer de comprendre d'où vient le fait que la France, que l'Afrique, qui est un pays, qui est un continent très voisin de la France, et avec lequel il y a eu un long passé d'amitié, lui échappe aujourd'hui. Eh bien, pour cela, je vais vous parler de la charte de la Havane, qui est une charte qui est très ancienne, qui date de 1942, qui n'a jamais été appliquée, alors qu'elle aurait pu constituer une solution d'entente pacifique entre les États du Sud et les États du Nord, dont la France fait partie. Et au sein de cette entente-là, si elle avait existé, la France aurait joué un rôle privilégié. Tout comme l'éventualité d'une position française ouverte sur le Sud lors de la mise en place de l'euro, la charte de la Havane est une occasion ratée. Je ressors ici un vieux travail réalisé en 1946 par les États signataires de la charte de la Havane. Celle-ci a été vite supplantée par les accords du GATT, General Agreement on Services and Trade, qui est aujourd'hui devenu l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La charte de la Havane n'a pas été appliquée au profit des accords du GATT. Pourtant, dès les années 40, dès l'après-guerre, elle contenait tous les éléments présents dans les accords d'un type nouveau que l'on devrait mettre en avant sous forme d'une organisation spécifique. La charte de la Havane évoquait déjà les termes d'un nouveau paradigme économique, social et culturel qui n'a jamais été mis en place au profit de la France-Afrique. Le 18 février 1946, le Conseil économique et social des Nations Unies décidait de convoquer une conférence internationale sur le commerce et l'emploi en vue de favoriser le développement de la production, des échanges et de la consommation des marchandises. La conférence se réunit à La Havane du 21 novembre 1947 au 28 mars 1948. Elle arrête le texte de la charte de La Havane, créant une organisation internationale du commerce, qui se serait appelée OIC, en tant qu'institution spécialisée de l'ONU. Ce projet ne vit cependant jamais le jour, même si 53 gouvernements la signèrent. Aucun ne ratifia la charte qui devint lettre morte quand le président des États-Unis de l'époque, le démocrate Harry Truman, prit acte qu'elle ne serait jamais votée à la majorité républicaine, qui la trouvait insuffisamment libérale. C'est donc en dehors du cadre onusien que le système commercial multilatéral s'est ensuite organisé. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'ONU, il y a plein de chartes qui sont signées, notamment la charte des droits universels des droits de l'homme et d'autres, beaucoup d'autres chartes qui aujourd'hui se sont développées et qui ont donné par exemple lieu aux ODD. Et il n'y a qu'un seul domaine, comme par hasard, qui n'a pas fait partie des accords onusiens pris dans le cadre de l'ONU, c'est le commerce. Sans attendre la fin des négociations, 23 États décidèrent en 1947 de détacher le chapitre du projet de la charte de la Havane relatif aux produits manufacturés et d'en faire non pas une institution mais un simple traité entre parties contractantes, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. Accident historique, le GATT restera jusqu'en 1994 date de création de l'Organisation mondiale du commerce, le seul instrument multilatéral régissant le commerce mondial. C'est ce que nous montre Jacques Nikonoff dans son article du Monde diplomatique, écrit en janvier-février 2007. Ce dernier conclut en exprimant sa volonté de voir exhumer ce document pour briser un tabou, celui que j'exprime ici dans une volonté de remettre en avant un mouvement naturel qui a été brisé par d'autres accords fondés sur l'inégalité. Citons ici le préambule à la charte de l'ONU. La Grande-Bretagne et le Royaume-Uni étaient hier protectionnistes. Ils sont aujourd'hui fanatiques du libre-échange. Ce n'est qu'une fois leur position dominante sur le plan industriel acquise qu'ils sont devenus libre-échangistes. Tout comme cela a été le cas en matière de régulation de la finance internationale avec le refus du plan Keynes, une caisse de compensation et un bancor, instrument de paiement international, c'est les idées de véritable libre-échange ont été mises de côté. Je dis véritable libre-échange parce que tout comme je défends l'idée que le vrai capitalisme, le vrai libéralisme est l'antithèse du capitalisme actuel, je défends également l'idée que le libre-échange, le véritable libre-échange, est également l'antithèse du libre-échange d'aujourd'hui. Le libre-échange doit se faire de manière équitable. On essaye de le faire au niveau international, mais c'est très difficile. Et je rajouterai quelque chose qui est récurrent aujourd'hui, notamment lorsque on s'intéresse aux discussions qu'il peut y avoir au sujet du Mercosur. Rappelons-nous là encore une thématique qui est quelque peu occultée par la presse et par les médias, alors qu'on ne parle pratiquement que du fiasco français à l'Assemblée nationale et de l'inauguration de Notre-Dame. Eh bien, il y a quand même, rappelons-le, un veto français au Mercosur, et pas que français, il y a d'autres États, notamment l'Italie et l'Espagne, au sein de l'Union européenne, qui ne sont pas d'accord, et a priori, il semblerait que le texte fait quand même son chemin. Notamment, voyons les derniers échanges qu'a fait la présidente de la Commission européenne en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de pression. Et donc, je défends l'idée que le vrai libre-échange n'est pas celui-ci. Et que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le vrai libre-échange se voit complété d'une nouvelle définition qui tient au développement durable et à la protection de l'environnement. Ainsi que sur le plan alimentaire, et c'est le cas avec le Mercosur, à la qualité. Donc, c'est ça le vrai libre-échange, l'équité et la qualité. Donc, les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont pu, à partir des années 40, quelque peu, notamment pour les États-Unis, dominer le commerce international. L'Organisation internationale du commerce n'a jamais vu le jour, mais cette dernière n'en reste pas moins une expression de la volonté des États qui cherchèrent à mettre le FMI, la BERD, l'OIC et l'OIT, l'OMC et l'OIT, pardon, sous l'égide de l'ONU, alors que ces dernières avaient été créées par l'intermédiaire d'une organisation créée de facto et nommée le GATT en 1947. Bretton Woods et le GATT ne sont donc pas autre chose qu'une imposture, une rupture brutale l'avancée historique des velléités des États, et je parle de tous les États du monde, et notamment ceux de 55 à Bandung, vers une évolution consistant à organiser mondialement un partage de la valeur ajoutée. Il y avait une tendance qui a été rompue brutalement. Et c'est aussi une tentative subtile de la part d'une minorité d'États disposant d'avantages comparatifs particuliers, notamment qui est leur développement industriel à l'époque, pour entraver la marche naturelle de l'histoire, celle exprimée par la majorité des pays, désireux de mettre en place de manière solide et durable un commerce international et un système financier international équitable sur la base de vrais échanges. Je parle de système financier international parce que tout s'est joué à Bretton Woods. Invité à, notamment, je pense aux trois grands, Roosevelt avait invité dans son cercle de famille, lors de la conférence de Téhéran qui s'était réunie en 1943, la Russie. Celle-ci avait accepté d'envoyer des experts à deux conférences, celle de Bretton Woods en juillet 1944, qui était chargée d'organiser les administrations économiques internationales, et celle de Dumbarton Oaks, qui devait étudier la création d'une organisation des Nations Unies. À l'occasion de ces deux réunions, les Américains avaient fait largement prévaloir leur vue fondamentale. Dotés d'un capital de 7 600 millions de dollars destiné à promouvoir par des prêts et surtout des garanties aux investissements privés la reconstruction de l'Europe et le développement du tiers-monde, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, devait essentiellement faciliter la transition vers l'avènement d'un degré maximum de commerce mondial multilatéral. Chargée de prévenir le retour des escarmouches monétaires qui avaient conduit au nationalisme économique les plus exacerbés, le FMI disposait d'une dotation initiale de 7 700 millions de dollars pour consentir des prêts à court terme aux nations handicapées par une balance des paiements déficitaires de par la guerre. Il les aiderait ainsi à maintenir une libre convertibilité et une parité fixe de leur devise et aurait à se prononcer sur toute dévaluation supérieure à 10%. Quant à l'effacement des diverses barrières douanières, ce fut un accord plus limité. Le GATT, axé sur la clause de la nation la plus favorisée, qui finalement en fut chargée. Nul ne douta du rôle prépondérant qui reviendrait aux États-Unis, confortant leur hégémonie financière, la charte du FMI fit en pratique du dollar la principale monnaie de réserve et leur quota dans les deux organisations leur assurait une inéluctable domination. Hésitant à s'engager de la sorte sur le plan économique, la Russie accepta à Dumbarton Oaks, entre le 21 août et le 7 octobre 1944, les grands principes de l'Organisation des Nations Unies, tandis que l'Assemblée générale, où chaque membre serait représenté sur une base d'égalité, serait essentiellement un forum de discussion. Un conseil exécutif composé de 5 membres permanents, États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, Chine et France, et de 6 autres tour à tour désignés, serait seul compétent en matière de sécurité. Conscient inversement de l'influence qu'assurerait aux États-Unis leur lien avec les pays d'Amérique latine et centrale, les Russes réclamèrent un droit de veto pour les membres permanents du conseil. Profondément marqués par les deux dernières guerres, ils ne renoncèrent pas réellement à l'espoir de se réserver un glacis de sécurité. Ils décidèrent de contrôler autant qu'il le faudrait le commerce et la diplomatie des pays d'Europe orientale et centrale, d'autant qu'ils escomptaient probablement en extraire, sous forme d'indemnités de guerre, les denrées, machines et matières premières nécessaires à la reconstruction de leur économie dévastée. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine, avec le pillage des ressources ukrainiennes, et notamment un autre holocauste qui est l'Holodomor, produit par Staline, sur l'Ukraine. Et donc on en est là, on a expliqué ce qui s'était passé sur le cadre du seul, le cadre onusien, comme l'explique Jacques Nikonoff, aurait pu constituer le cadre rêvé pour des accords éthiques, remettant à plat un ordre mondial fondé sur la colonisation, puisque ce dernier était un cadre fait pour la paix. On a donc, et ça, c'est la source de tous les échecs monumentaux qui sont survenus sur le plan politique, au niveau aussi bien régional qu'étatique, que international, interétatique, dans l'histoire du monde, fait et opéré une dichotomie entre une gouvernance économique et une gouvernance politique. Or, on le sait bien, lorsque on désencastre, c'est ce qu'ont montré plusieurs auteurs, lorsqu'on fait du désencastrement, c'est-à-dire qu'on opère une dichotomie entre l'économique et le politique, ça se passe pas bien. Ça revient exactement au même que cette philosophie qui consiste à dire que l'âme et le corps sont distincts. Le politique, c'est l'âme qui dirige, et puis l'économique, c'est le corps. C'est ce qu'on appelle le corps au niveau d'un être humain. Et là, on se trompe complètement. On voit bien ce qu'on fait des siècles de fausses croyances selon laquelle il y aurait une âme qui serait supérieure au corps et qui devrait se régénérer de façon à vivre une vie éternelle, et un corps qui n'était pas important. Pour que fonctionne un être humain correctement et qu'il soit équilibré, il faut opérer une réassociation entre son corps et son âme, lorsqu'il a malheureusement cru qu'il y avait une dichotomie, qu'il fallait être soi-disant, entre guillemets, pardon, spirituel, sans faire attention, sans penser à son corps et à son bien-être matériel. Eh bien, au niveau collectif, c'est exactement la même chose. Et ce qu'on appelle le corps et l'âme pour un être humain, c'est l'économique et le politique au niveau international, au niveau d'un État ou de plusieurs États. Donc, en désencastrant, on a fait une bêtise et qui avait déjà commencé avant, bien entendu, avec bien sûr le pillage de l'Afrique, le commerce triangulaire et puis le pillage des terres des Indiens aux Amériques par l'arrivée des Européens. Mais il n'y a jamais eu une aussi grande opération de dissociation de l'économique et du politique qu'en 1944 à Bretton Woods. Là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit à tout le monde, bon bah c'est bien, il va y avoir la paix dans le monde, on va créer l'ONU, on va partir d'une base qui est la SDN, et pour créer vaguement quelque chose que le général de Gaulle appelait le machin, qui est l'ONU, qui va faire la promotion des droits de l'homme. Et puis, à côté, il va y avoir, et ça, là-dessus, tout le monde sera égalité. Et puis, à côté de ça, il va y avoir une organisation du commerce qui va être dirigée principalement par les États les plus industrialisés, avec à leur tête les États-Unis et leur monnaie. Et donc, on opère une dichotomie entre l'économique et le politique. Et c'est comme ça que depuis cette époque-là, le monde fonctionne. Donc forcément, ça ne peut pas aller bien, puisqu'on ne peut pas séparer la tête et les jambes. Et donc forcément, il y a la tête qui est à l'avant, c'est les pays industrialisés, avec à leur tête les États-Unis, et puis le corps qui ne suit pas, c'est le reste du monde. Et pour cela, il aurait fallu dès le départ opérer un encastrement, et aujourd'hui on va être obligé de faire ce qu'on appelle un réencastrement. Les termes sont de Karl Polanyi, un économiste très important qui n'a jamais été écouté et dont on ne parle jamais, mais qui est cependant un économiste qui s'inspire directement de Aristote, qui, dès la Grèce antique, avait écrit trois ouvrages principaux, entre autres, qui était l'économique, le politique et l'éthique. Trois éléments d'un triangle très important, qui sont indissociables les uns des autres, puisque de toute façon dans un triangle il n'y a aucune des pointes qu'on ne peut négliger. L'économique, c'est la gestion des ressources, la production et l'échange. Le politique, c'est ce qui va c'est l'ensemble des actions qui vont contribuer à l'amélioration du bien-être des individus membres d'une société, notamment grâce au droit. Et puis l'éthique, c'est ce qui dirige tout cela, c'est le fait de mettre en place, en avant, des valeurs qui va faire que dans un État qui fonctionnerait sur le mode du Troisième Reich hitlérien ne pourrait pas fonctionner à long terme parce qu'il ne serait pas surplombé par une éthique. Donc c'est pour ça que ça a duré que 5 ans. Voilà. Et donc ça, tout ça, Aristote l'avait vu, et Karl Polanyi s'inspire un petit peu de lui, puisque Aristote, c'est le premier à avoir jeté les bases de notre civilisation, justement en montrant que l'économique et le politique étaient indissociables l'un de l'autre, et qu'ils devaient être dirigés par l'éthique. Et Karl Polanyi nous dit la même chose, et nous dit « Il faut opérer un réencastrement de l'économique et du politique, en partant du local, des économies locales, déjà en 1945, lorsqu'il a sorti son livre « La grande transformation ». Voilà. Donc, c'est très important de comprendre tout ça et de comprendre que ça ne s'est pas bien passé. Déjà en 1944, avec Bretton Woods, alors qu'on avait pourtant toutes les clés en main. On les avait toutes, puisqu'il y avait eu la charte de La Havane et beaucoup d'États qui s'étaient réunis, des États du monde entier, non pas uniquement des États occidentaux industrialisés, mais parmi eux, il y avait beaucoup d'États africains, il y avait des États qui... une grande partie des États, c'est pas pour rien que ça s'est fait à Cuba, à La Havane, une grande partie de ces États-là venait de ce qu'on a appelé pendant longtemps le tiers-monde, et qu'on appelle aujourd'hui le monde en développement. Voilà. Donc j'en reviens à mes moutons, j'en reviens à la charte de La Havane. Il faudrait restaurer sur le plan économique et sur le plan géopolitique cet ordre mondial qui a été voulu par tous ces États lors de la conférence de la Havane, en mettant fin aux impérialismes, notamment celui de l'OTAN, par l'intermédiaire d'une nouvelle plateforme internationale formée de la société civile qui soutiendrait l'ONU et lui rendrait sa vocation première, celle d'une paix internationale. Avant de reparler de la charte de La Havane et de reprendre un peu son historique, je voudrais qu'on écoute une chanson. On va écouter Buffalo Soldiers de Bob Marley.
Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought
Voilà, c'était une chanson de Bob Marley. Alors, reprenons ici l'historique de la Charte de la Havane. La Charte de la Havane commence par la convocation par le Conseil économique et social des États-Unis, par la résolution du 18 février 1946, d'une conférence internationale sur le commerce et l'emploi en vue de favoriser le développement de la production, des échanges et de la consommation des marchandises. La conférence se réunit à La Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948. Elle a arrêté le texte de la Charte de La Havane et institue une organisation internationale du commerce qui a été soumise au gouvernement représenté à la conférence. Elle a donné lieu à 3 documents. Je reprends ici le texte de Jacques Nikonoff. L'acte final, la Charte de La Havane qui institue l'OIC et ses annexes. Les résolutions adoptées par la conférence. Sans attendre la fin des négociations, 23 États décidèrent en 1947 de détacher le chapitre du projet de charte relatif aux échanges de produits manufacturés et d'en faire le GATT. Ce dernier restera jusqu'en 1994 le seul document international régissant le commerce mondial. Le seul instrument multilatéral, pardon. De 1948 à 1994, ce même terme a désigné l'organisation internationale provisoire destinée à gérer cet accord. Le rôle le plus visible du GATT au cours de ces quelques décennies d'existence aura été celui de l'organisation de cycles périodiques de négociations en vue d'abaisser les barrières douanières et d'obtenir des concessions afin de régler d'autres questions commerciales. 8 cycles rondes se sont tenus sous l'égide du GATT. Jusqu'au milieu des années 60, les différents commerciaux sont peu nombreux. On assiste à une diminution progressive des tarifs douaniers sur les produits industriels, mais sur eux seuls. Ils passent de 40% en 1945 à 5% environ à notre époque. Un consensus règne alors. Les États-Unis dominent le monde et ne se sentent pas menacés par un concurrent. Le capitalisme, celui des Trente Glorieuses, est alors encadré ou régulé. Les États interviennent fortement dans l'économie, la croissance est élevée, le chômage est très faible. Les pays en voie de développement obtiennent des concessions pour éviter leur basculement dans l'Union soviétique. Le libre-échangisme est très modéré et il ne touche que peu de secteurs. L'Uruguay Round, convoqué sur une idée de Ronald Reagan, va consacrer la fin. C'est en 1994, oui, c'est ça, du libre-échangisme modéré et consensuel, tandis que le triomphe de l'idéologie libérale sera favorisé par l'écroulement de l'Europe de l'Est. Ce long cycle voit s'affronter les États-Unis, la CEE et le Japon entre eux, mais va aussi voir monter la pression du groupe des pays en voie de développement, des oubliés de la prospérité. L'objectif est de supprimer les mesures protectionnistes non tarifaires, autres que les tarifs douaniers, et d'étendre les mesures libre-échangistes à toutes les activités. Cette généralisation de la libération du commerce international ne rendait que plus urgente la recherche d'alternatives. C'est en ce sens, nous dit Jacques Nikonoff, que la Charte de La Havane présente un intérêt puisqu'elle envisageait les relations commerciales internationales d'un point de vue très différent. Elles laissaient toute leur place aux organisations internationales, syndicales et politiques. D'après Jacques Nikonoff, cette organisation donne tout son libre cours à la gouvernance onusienne, qui est la seule instance à donner au système international toute sa légitimité. C'est la même chose en matière de défense, nous le verrons plus tard. D'abord parce qu'elle a été négociée dans le cadre de l'ONU, ensuite parce qu'elle est fidèle à une conception onusienne des relations internationales. Elle vise à mettre à égalité toutes les instances. Reprenons ici point par point les éléments de la Charte de La Havane. La Charte de La Havane, nous dit Jacques Nikonoff, voulait montrer comment le FMI, la BERD, l'OIC et l'OIT, l'OMC et l'OIT pouvaient collaborer. C'est le premier texte international à évoquer le développement. La question des liens entre commerce et développement a été évoquée pour la première fois par les pays d'Amérique latine lors de la conférence de La Havane. Plus tard, l'accession à l'indépendance des pays en développement d'Afrique et d'Asie, à la suite d'un système commercial international qui favorise le développement économique et social, va se mettre à jour. C'est pour réaliser cet objectif que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, a été créée en 1964. La Charte de La Havane a proposé une approche qui se situait aux antipodes de la situation actuelle du commerce international. Pour elle, ce commerce ne pouvait avoir qu'un seul objet, le développement de chaque pays considéré individuellement dans le cadre des relations internationales fondées sur la coopération et non la concurrence. Il s'agirait de développer un paradigme nouveau fondé sur la coopération. La Charte de La Havane n'a pas disparu. Elle existe encore. On peut la lire et l'appliquer. La question essentielle à traiter serait celle de l'emploi et de son lien avec le commerce. Elle pourrait s'intituler « Conférence internationale sur le commerce et l'emploi ». Aujourd'hui, c'est non plus l'emploi, mais le chômage, donc un phénomène à connotation négative qui est mis en relief dans les accords internationaux et qui est devenu la variable d'ajustement. Comme le dit si bien Albert Einstein, on ne résoudra jamais un problème en l'attaquant de front et en utilisant les mêmes données explicatives que ce qu'il a créé. Il faut donc, à partir du concept d'emploi pour résoudre nos problèmes économiques et ne pas raisonner en termes. Il faut donc partir du concept d'emploi pour résoudre nos problèmes économiques, et ne pas raisonner en termes de pénurie, donc de chômage. Mais pas n'importe quels emplois. Pas des emplois à tout prix. Créer autre chose que des emplois à tout prix, c'est justement s'appuyer sur les nouvelles perspectives actuelles qui visent à mettre en avant le développement durable dans la production et l'échange international pour créer des emplois pérennes et créer de la qualification. Les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies portaient particulièrement sur le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement. Il s'agissait d'assurer une ampleur toujours croissante du revenu réel et de la demande effective, de développer la production, la consommation et les échanges des biens, et de contribuer ainsi à l'équilibre et à l'expansion de l'économie mondiale. Il s'agissait en petit 2 d'aider et à stimuler le développement industriel ainsi que le développement économique général, particulièrement en ce qui concerne les pays dont le développement industriel était encore à ses débuts, et encourager le mouvement international des capitaux destiné aux investissements productifs. En petit 3, il s'agissait de faciliter à tous les pays l'accès dans des conditions d'égalité aux marchés, aux sources d'approvisionnement et aux moyens de production nécessaires à leur prospérité et à leur développement économique. En petit 4, il s'agissait de favoriser sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels la réduction des tarifs douaniers et des autres entraves au commerce, ainsi que l'élimination des discriminations en matière de commerce international. En petit 5, il s'agissait de permettre aux différents pays, en multipliant les possibilités d'accroissement de leur commerce et de développement de leur économie, d'éviter le recours à des mesures qui pourraient désorganiser le commerce mondial, réduire l'emploi productif ou retarder le progrès économique. Par exemple, la guerre. Ce n'est pas du tout ce qui a été mis en place. Il s'agissait, en petit 6, de faciliter grâce au développement de l'entente mutuelle, des consultations et de la coopération, la solution des problèmes intéressant le commerce international dans les domaines de l'emploi, du développement économique, de la politique commerciale, des pratiques commerciales et de la politique des produits de base. En conséquence, la Charte voulait instituer par les présentes l'OIC, par l'entremise de laquelle les États pourraient coopérer en leur qualité de membres de cette organisation en vue d'atteindre le but général et les objectifs énoncés. Ça, c'était pour l'article 1 de la Charte. Article 2, la Charte focalise sur l'importance de l'emploi, de la production et de la demande au regard du but de la présente Charte. En petit 1 de cet article 2, il s'agissait de reconnaître pour chaque État membre qu'il n'est pas uniquement de leur intérêt national de prévenir le chômage et le sous-emploi en assurant et en maintenant dans chaque pays des possibilités d'emploi productif en faveur des personnes aptes au travail et désireuses de s'employer, ainsi qu'un volume important et en progression constante de la production et de la demande effective de biens et de services. les États membres devaient reconnaître que la prévention du chômage et du sous-emploi était une condition nécessaire pour atteindre le but général et les objectifs énoncés à l'article 1, y compris le développement des échanges internationaux, et par conséquent pour assurer le bien-être de tous les pays. En petit 2, les États membres reconnaissaient que si la prévention du chômage et du sous-emploi dépendait au premier chef de mesures intérieures, prises individuellement par chaque pays, ces mesures devaient être complétées par une action concertée, entreprise sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies, avec la collaboration des organisations intergouvernementales qualifiées, chacun de ces organismes agissant dans les limites de sa compétence et conformément au mandat et au but qui lui étaient assignés par ses actes constitutifs. Enfin, en petit 3 de cet article 2, les États membres reconnaissaient que pour assurer le succès de la coopération dans le domaine de l'emploi et de l'activité économique, il était indispensable qu'ils procèdent régulièrement à des échanges de renseignements et de vues et qu'ils reconnaissent que l'organisation devait s'employer à faciliter ces échanges. À cette époque-là, lorsqu'on a la charte a été rédigée, on voit bien qu'on est très très loin du système de stagflation, c'est-à-dire coexistence avec inflation et chômage, ce qui a prédominé dans les années 80. Les salaires restant en stagnation, on était bien loin de cette situation-là, sachant que on avait à l'époque, avant que ça arrive, les clés pour éviter ça, malgré l'augmentation des prix de l'OPEP dans les années 70. On peut dire que ce système de stagflation des années 90 a été volontairement entretenu, notamment en Europe, pour encourager la mise en place d'une économie par le crédit, la titrisation, via les hausses de taux, sous prétexte de politique de rigueur. Il s'agissait alors de maîtriser le déficit et l'inflation, ainsi que pour accepter une flexibilité des salaires et des conditions de travail au profit des grandes multinationales, donc le grand contraire de ce qui se disait dans l'article 2 de la Charte de la Havane au profit du travail et de l'emploi. Cet article 2 prévoyait aussi également une sorte de réunion internationale du plein emploi au sein de laquelle chaque pays prenait ses responsabilités, et notamment la responsabilité de réguler lui-même sa situation sur le plan intérieur. Entreprise sous les auspices du Conseil économique et social, avec la collaboration des organisations intergouvernementales qualifiées, avec notamment, cela va de soi, le programme du Conseil national de la résistance français, le programme du CNR, et le principe du droit à l'emploi contenu dans notre préambule constitutionnel de 1946, donc chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. C'est l'article 5 de l'article 46 du préambule de la Constitution. L'article 3 de la Charte de la Havane évoquait la nécessité du maintien de l'emploi à l'intérieur du pays. Et notamment, il disait dans son point 2, que les mesures mises en œuvre pour maintenir l'emploi, la production et la demande devaient être compatibles avec les autres objectifs et dispositions de la charte, et que les États membres devaient chercher à éviter les mesures qui auraient et pour effet de mettre en difficulté la balance des paiements d'autres pays. Donc il y avait une solidarité qui était mise en œuvre. Comme le dit Jacques Nikonoff, la priorité aux exportations, qui est le mot d'ordre général de tous les pays, et particulièrement de la France, depuis l'alignement de 1982-83 sur les politiques néolibérales, n'aurait pu être acceptée s'il y avait eu la mise en place de l'Organisation internationale du commerce, l'OIC. Cette priorité aux exportations affichait clairement son ambition, créer chez soi un excédent structurel de la balance des paiements aux dépens de celle des autres, ce qui n'était pas une logique coopérative. L'article 4 évoque le rétablissement de l'équilibre interne de la balance des paiements comme objectif fondamental de l'OIC. Il nous dit notamment, écoutez bien, en petit 1, une solidarité qui se met en place si un déséquilibre interne et persistant de la balance des paiements d'un État membre constitue un élément majeur d'une situation dans laquelle d'autres États membres éprouvent des difficultés à maintenir l'équilibre de leur balance des paiements et de ce fait à appliquer les dispositions de l'article 3, qui est l'article précédent que j'ai cité, qui évoque la nécessité d'une balance des paiements juste et équilibrée pour chacun, sans un recours à des restrictions au commerce, le premier État membre contribuera pleinement au redressement de la situation, en même temps que les autres États membres intéressés prendront des mesures appropriées à cette fin. Il sera dûment tenu compte du fait qu'il est préférable d'employer des méthodes visant au développement plutôt que resserrement des échanges internationaux. Donc, cet article 4 nous dit qu'aucun pays ne doit être en situation structurelle d'excédent ou de déficit de la balance des paiements. Si personne n'est en excédent ou en déficit, tout le monde a une balance de paiement équilibrée. Dans le jargon des échanges bilatéraux entre pays, cela veut dire « je t'achète autant que tu m'achètes ». Voilà. Obliger les États à faire attention aux balances des paiements des autres, c'est avoir affaire à une économie régulée de manière équilibrée et stable, sans déséquilibre majeur entre États. C'est aussi réguler les flux financiers, et c'est également avoir affaire à une économie réelle. Donc, on mettait déjà, à l'époque, en place le système qui allait permettre de tout coordonner et d'avoir une économie mondiale saine. En article 5, la charte de la Havane évoque les échanges de renseignements et les consultations. Consultation du Conseil économique et social des Nations Unies, qui aurait très bien pu, s'il avait existé, être une instance de coopération avec notre fameux CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Voilà. Pour rassembler, analyser et échanger de façon systématique les renseignements relatifs aux problèmes nationaux de l'emploi, à leur évolution, ainsi qu'à la politique suivie à cet égard, et ainsi que les renseignements ayant trait aux revenus nationaux, à la demande et aux balances des paiements. Sur les problèmes relatifs à la population, à l'emploi et aux études correspondant aux buts et aux objectifs énoncés à l'article 1er sur le travail et l'emploi, sur le développement de l'activité économique, sur les mesures appropriées pour combattre la propagation au-delà des frontières d'une diminution de l'emploi, de la production, de la demande. Enfin, en article 6, on met en place des mesures visant à favoriser la protection aux États membres contre les pressions inflationnistes ou déflationnistes extérieures. Voilà. Enfin, article 7, on évoque les normes de travail équitable, donc justement sur le droit du travail. En article 10, la coopération en vue du développement économique et de la reconstruction après la guerre. En article 12, les investissements internationaux, le développement économique et la reconstruction pour produire une équité. Et en conclusion, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que tous ces articles n'ont pas été mis en place, n'ont pas été appliqués du tout, et qu'en janvier 1966, lorsque naît à Cuba l'organisation qu'on appelle la Tricontinentale, qui regroupe les forces anti-impérialistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les 82 délégations de pays décolonisés qui se retrouvent là-bas, en compagnie de mouvements de libération afro-asiatique et de formation de guérilla d'Amérique latine, de Chinois et de Soviétiques, on assiste à la déjà à l'époque à la division actuelle du monde que j'évoque en évoquant, en parlant justement du fait que les États africains qui n'ont plus besoin de la France aujourd'hui, deux d'entre eux ont mis en fin aux accords militaires avec la France. C'est de cette époque-là que naît la dichotomie. Voilà. Et donc, si j'en parle, c'est parce que je trouve que c'est grave et que aujourd'hui, au lieu d'avoir mis en place un développement économique mondial fondé sur la coopération, on a fait le contraire et que j'ai bien peur qu'aujourd'hui on le paye si on ne n'envisage pas aussi vite que possible de créer une nouvelle instance internationale qui pourrait seconder l'ONU et la parrainer ou l'accompagner dans sa marche vers plus de droits internationale et qui aurait un objectif économique et financier. Il faudrait, entre guillemets, revenir au niveau international. Maintenant, dans le cadre du bilatéralisme, ça ne peut plus se faire. Tous les accords bilatéraux qu'il peut y avoir entre États, entre, par exemple, la Chine et certains pays africains, ou la Russie et certains pays d'Asie, tous ces accords bilatéraux-là ne peuvent pas fonctionner. Ça fonctionne au niveau régional. Par exemple, l'ASEAN fonctionne. Elle arrive à maintenir une entente entre les pays qui en font partie. Mais quitte du reste du monde. Où en est l'évolution d'un paradigme qui serait véritablement international, à part des chartes qui ont été signées, un droit international qui est perpétuellement mis à mal et qui n'est pas appliqué. Donc c'est là que je pose la question, est-ce que l'ONU fonctionne encore ? Qu'est-ce qu'on a comme instance internationale ? L'ONU qu'on n'écoute pas parce qu'elle ne parle que de droits de l'homme, ça n'intéresse personne. L'OTAN, qui est une organisation internationale qui divise le monde en monopolisant les forces armées d'un certain nombre de pays occidentaux, mais toujours dans une vision qui est opposée à une autre partie du monde. D'autres organisations internationales qui sont régionales, qui menacent que le monde se divise en blocs, qu'ils se fassent la guerre les uns aux autres, et qu'ils se disputent leur influence respective dans les États les moins favorisés. Voilà où en est la situation mondiale aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait créer une nouvelle instance internationale qui, elle, s'appuierait, qui pourrait seconder l'ONU, puisque c'est quand même l'ONU a quand même créé un paradigme international et on dispose de ressources juridiques qui émanent de l'ONU pour qu'il y ait un droit. Et cette instance internationale, ayant une assise économique et financière, pourrait très bien constituer une deuxième force qui permettrait de revenir à cette époque de la charte de la Havane où tout était encore possible. Voilà. J'en reste là pour cette semaine. Je vous souhaite, chers auditeurs, une très bonne fin de semaine et je vous laisse méditer sur les idées qui ont été évoquées ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.